Bonjour à toutes et tous. Donc avec Armel, on souhaitait vous parler non pas des projets qu'on mène ensemble et en complémentarité, comme ceux au sein de Repair ou de Mirabel 2022 par exemple, mais on a souhaité plutôt vous faire un retour à deux voix sur notre travail au quotidien dans nos pôles, éditoriaux respectifs. Donc à partir de quelques constats généraux concernant nos métiers, en édition pour moi et en documentation pour Armel. Et puis, on va parler de notre trajectoire croisée, trajectoire professionnelle croisée, parce que Armel est documentaliste en pôle éditorial et moi, je suis l'éditeur en BU, donc il y a un petit croisement. Et donc, on vous souhaitait vous proposer une lecture un petit peu ludique de la complémentarité des métiers en nous appuyant sur la pensée d'Édouard Glissant. Donc, Édouard Glissant, qui était poète, romancier, philosophe martiniquais et qui a développé une pensée postcoloniale du monde en mouvement. Et comme notre monde de l'édition est en mouvement et en mutation profonde, on peut faire référence à sa pensée dite archipélique. On a plutôt pensé appeler cette présentation l'édition en archipel.
Laquelle on avait préparé une belle image, c'est Basile qui l'avait faite, et comme on ne l'a pas préparée sur le poste, voilà, vous ne la voyez pas. Mais c'était un archipel. Et donc, c'est une réflexion effectivement à deux voix qui fait suite aussi à deux publications. Là, en 2020, deux publications dans des revues professionnelles issues du milieu documentaire. Hein. En 2020, dans Information, Données et Documents. Et en 2023, dans le numéro 108 d'Arabesque, donc des publications qui ont toutes deux traité de la collaboration entre professionnels de l'édition et de la.
Ouais, donc je commence par quelques constats autour du numérique et de la science ouverte. D'abord en édition, sur les mutations actuelles. Bon, peut-être j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais ce n'est pas grave, je trouve que c'est pas bien de le redire. Comme nombre de professions dans l'enseignement supérieur et la recherche, le métier d'éditeur et d'éditrice est confronté à des défis qui se surajoutent aux missions habituelles. Hein. Donc des missions qui pouvaient être déjà très variées, avec un cœur de métier lié à l'établissement du texte, mais aussi avec de nombre de compétences annexes. Et pourtant essentiel, hein, donc je pense au cadre juridique, à la connaissance des méthodes de production scientifique, à la diffusion, distribution, à la PAO, aux techniques d'impression, etc. Ce que vous connaissez toutes et tous, voilà. Et puis après, des évolutions de l'édition numérique, hein, qui ont nécessité de repenser la chaîne éditoriale. Il y a l'accélération de la mise en place des politiques de sciences ouvertes qui a battu une nouvelle fois les cartes et qui nécessite une nouvelle réflexion sur la production éditoriale. Deux nouvelles questions sont soulevées et qui provoquent des changements, notamment autour des questions juridiques, des modèles économiques, de l'intégrité scientifique, de l'évaluation et puis du dépôt en archive ouverte notamment. Et parallèlement à depuis le début des années 2000, il y a de nombreuses plateformes de diffusion qui naissent, après Open Edition, Carnet Percé, donc des pépinières qui sont portées par différents services au sein des universités. Des bibliothèques, des messages, des services recherche. Donc, ces pépinières proposent de diffuser les revues ainsi qu'une offre de services qui se dilue avec le temps et qui vient en appui aux équipes des revues pour les accompagner dans une montée en qualité éditoriale, comme le disait Anthony tout à l'heure. Voilà. Et donc, des préoccupations qui ont conduit également à la formation de pôles éditoriaux avec ou sans pépinière. On doit aussi faire avec une recherche mondialisée, hein, et puis intégrer petit à petit la question des données de la recherche à nos pratiques. Donc, vous voyez qu'il y a voilà, une espèce de strates qui s'ajoutent petit à petit. Il y a autant d'éléments et d'événements dont on voit qu'ils modifient le travail éditorial et sa structure de manière continue, le rendant en mouvement. Et vous commencez à me voir venir avec Édouard Glissant.
Je suis plus petite que lui, je suis sur. Donc voilà. Pour donner le professionnel de la documentation, vous savez, on a toujours été là plutôt en aval, en fait, dans les questions de production éditoriale. Parce que les professionnels de la doc ont toujours contribué à des opérations coutumières de signalement, d'indexation, de catalogage, etc. Et tout cela se faisait donc plutôt en aval. Et aujourd'hui, un contenu éditorial qui naît au format numérique, c'est quelque chose qui alimente de façon un peu. Allez, ça y est, j'ai trouvé comment baisser le micro. qui alimente de façon un peu instantanée toutes sortes de systèmes de diffusion, de bases de données, d'articles, de catalogues à moindre frais et de rapide. Donc, si l'apport des professionnels de la doc se fait toujours, évidemment, c'est quelque chose qui se poursuit. On gère encore des ressources et des systèmes d'information documentaire, on fait encore des produits documentaires, mais on est beaucoup amené à mettre en place des services qui sont là pour promouvoir les bonnes pratiques et la science ouverte. Donc, le constat, c'est que c'est le mouvement pour le libre accès qui a favorisé un rapprochement des métiers de l'édition et de la doc. Et c'est ça qui nous a petit à petit amené à agir en amont de la publication. Par exemple, au départ, je prêche pour moi, je vois le début. Pour favoriser le dépôt d'articles en archives ouvertes, les professionnels de la doc se sont intéressés aux politiques de publication des revues et des éditeurs, puis à la visibilité de ces publications et puis aux critères de qualité éditoriale qui favorisent le bon référencement de ces publications. Et de fil en aiguille, ça nous a amené à interagir avec les éditeurs pour donner à voir ces politiques éditoriales autour des revues, pour favoriser une réappropriation des contenus par les auteurs, pour accroître la visibilité grâce au référencement. Et donc, c'est tout un travail de terrain auprès des acteurs de l'édition et des auteurs qui a rendu moins étanches les frontières entre fonction documentaire et fonction éditoriale. Et ça a mis en relief une complémentarité des métiers que l'on juge utile aujourd'hui de renforcer tout en clarifiant les rôles. C'est en tout cas ce qui se passe dans les pôles respectifs où nous officions l'un et l'autre. Et c'est d'autant plus important que sur le terrain, les moyens humains manquent pour décliner à l'échelle des établissements une politique publique en matière de sciences ouvertes qui est quand même ambitieuse. Et pour ça, en fait, moi, je m'appuie sur ce que je vois dans les services qui m'entourent et ce que je peux entrevoir, par exemple, des presses universitaires avec lesquelles je collabore au quotidien dans le cadre du pôle, il y a une disproportion entre tout ce qui reste à faire en matière de sciences ouvertes et les moyens alloués à cet effet. Donc, les presses sont en sous-effectif souvent et nécessitent de s'étoffer sur des besoins métiers comme le graphisme, le secrétariat de rédaction, le secrétariat d'édition, la diffusion, n'est-ce pas? Cependant, du point de vue des tutelles, on n'essaye plus seulement de répondre à un besoin professionnel clairement exprimé. Les attributions de poste en documentation comme en édition sont fléchées pour avoir un effet levier sur les pratiques sciences ouvertes. D'où, à mon sens, une transformation parallèle des métiers et un rapprochement de la doc et de l'édition au profit de la science ouverte, mais aussi au profit des structures locales comme les presses universitaires. Les presses universitaires. D'ailleurs, Basile vient de presses universitaires à l'origine.
Mais tout à fait, Armel. J'ai travaillé durant une dizaine d'années. Et depuis 2021, je travaille comme coordinateur donc, pour le réseau Repère, qui rassemble 16 pépinières de revues scientifiques en accès ouvert, et comme éditeur à Prairial, qui est un dispositif de soutien aux revues de SHS du site Lyon Saint-Étienne, qui a été formalisé en pôle éditorial donc en 2021 également, et qui rassemble trois institutions, Lyon 2, Lyon 3 et la MSH Lyon Saint-Étienne. Et donc mon poste est situé dans la bibliothèque universitaire de Lyon 3, il faut que je me baisse un peu. Et le service de soutien à la recherche de la BU Lyon 3, qui est à l'origine de Prairial, a d'abord mis en place une plateforme qui était menée par des bibliothécaires. Et puis rejoint par la suite par des éditeurs et des éditrices qui sont venus consolider l'offre de services avec des compétences qui étaient devenues nécessaires. Et à mes yeux, Prairial est aussi un dispositif expérimental en matière d'organisation du travail, et c'est ça qui m'intéresse un peu plus dans cette présentation, en tant que service de soutien à l'édition et nous en tant qu'éditeur scientifique public, ce qui offre un point de vue un petit peu différent. Le travail éditorial est organisé en fonction des besoins des revues qui sollicitent le pôle et des améliorations qu'on peut envisager pour elles. Donc, bien sûr, il y a des missions, il y a une feuille de route qui sont définies, validées, etc. Mais l'activité du pôle repose aussi, pour certaines tâches, sur une organisation par affinité, c'est-à-dire qu'on peut se répartir certaines missions, notamment les plus transversales, relativement librement. Ou parfois par site, c'est-à-dire en fonction des entités éditrices des revues, puisqu'on d'institution. Ce qui n'empêche pas non plus de venir en aide aux collègues quand il y a des besoins particuliers ou quand il y a des chantiers multisites. Ou quand il y a de travail aussi qui est trop importante. Donc là, il y a des relations complexes qui se mettent en place. Et donc, il y a de nombreux chantiers transversaux qui font avancer le dispositif. J'en cite quelques-uns parmi les derniers. Je pense à la création d'un site web, le passage à une nouvelle maquette de revue, plus accessible, hein, je pense à la Nova 2, la production de documents nécessaires au fonctionnement du pôle, par exemple des fiches d'évaluation éditoriale, des fiches d'évaluation scientifique, etc. L'alimentation continue de pré-RealDoc, des enquêtes sur les revues du site. Et ces chantiers favorisent non seulement une complémentarité des métiers qui est très forte, mais aussi finalement le développement d'un important transfert de compétences. Et je dirais aussi que c'est l'esprit de curiosité qui règne au sein de Prairial qui favorise ce transfert de compétences qui est très fort. Et pour ma part, ces deux dernières années au sein de Prairial m'ont permis d'explorer de nouveaux territoires professionnels jusque-là inconnus. Et je remercie très sincèrement mes collègues de continuer à avoir des échanges très très riches. Et donc, des territoires professionnels et inconnus, la connaissance des systèmes d'information et de référencement, une connaissance beaucoup plus fine, la question des disséminations et de la transmission des métadonnées, par exemple, la question des identifiants auteurs, des réflexions sur les modèles économiques, la question de la bibliométrie. Et puis j'ai même pu avoir des échanges très riches avec des collègues de la BU sur des politiques d'acquisition de livres pour la bibliothèque. Ça m'a beaucoup intéressé, et des échanges où j'ai pu parler en tant qu'éditeur sur cette question-là, et c'était vraiment un échange intéressant. Et donc, Prairial est en quelque sorte créolisé, où il devient subtil de décrire les profils professionnels des agents qui le composent. Je propose d'essayer de le faire quand même, et j'espère que les collègues se reconnaîtront dedans. Donc le service est coordonné par un conservateur des bibliothèques qui est de fait devenu responsable éditorial. Et il comprend une équipe issue donc de trois archipels institutionnels qui est composée de deux personnels des bibliothèques. Donc je détaille, un bibliothécaire éditeur, donc c'est un bibliothécaire qui est formé à l'édition, hein, qui sait éditer. Un chercheur qui est chargé d'édition et de référencement et qui se positionne très fortement sur les questions de référencement. Un éditeur et une éditrice qui sont postés en BU, une documentaliste qui travaille également sur les données en MSH, une administratrice de base de données qui est formée à l'édition, un bibliothécaire qui est informaticien et qui gère la plateforme, hein, et en ce moment une stagiaire en édition en BU. Et par ailleurs, à ma connaissance, être éditeur en BU, c'est relativement inédit en France. Enfin, je crois que nous sommes que deux. S'il y en a d'autres dans la salle, je suis très curieux de savoir qui. Et on peut se demander si ce statut va se développer à l'avenir quand on voit que les bibliothèques s'investissent de plus en plus dans l'édition ou dans des partenariats avec des pôles éditoriaux. En tout cas, je les invite à investir dans des postes d'éditeur. Dans un schéma croisé, Armel, donc, tu es comptabiliste au sein d'un pôle éditorial.
Voilà. La transition. Et donc oui, j'ai été recrutée au CNRS en 2003 comme documentaliste et j'ai travaillé successivement dans plusieurs bibliothèques de recherche où les missions autour du libre accès ont tranquillement pris le pas sur le reste, jusqu'en 2016 où j'ai intégré la Maison des sciences de l'homme de Dijon. Et sur un poste donc sans bibliothèque ni centre de documentation, pour développer des missions documentaires qui deviennent la norme, qui sont la norme, autour du libre accès. D'abord avec HAL, et puis et surtout aujourd'hui avec une pépinière de revues, mais même de façon plus large, dans le cadre d'un pôle éditorial. Donc ce qu'il faut noter, c'est que mon arrivée sur ce poste s'est faite dans un contexte que je jugeais étrange à l'époque, c'est que l'activité éditoriale autour de cette plateforme, Préo, se faisait sans éditeur. Donc, ça a fonctionné sans professionnel de l'édition de 2006 à 2018, comme si le numérique nous avait affranchi. De l'expertise métier en édition. Mais mon travail, en collaboration avec une collègue documentaliste et un informaticien, a permis une première évolution de cette plateforme, jusqu'au recrutement de son responsable éditorial que vous avez vu ce matin, Daniel Battesti. Et tout ça pour aller plus loin au profit de la science ouverte. Et tout ça pour faire levier sur les pratiques de l'ASO sur, enfin, dans notre périmètre régional. Et aujourd'hui, notre expertise conjointe et complémentaire sur le libre accès et l'édition numérique ouverte a favorisé une coopération croissante avec les presses universitaires locales à Dijon et à Besançon, donc entre la Bourgogne et la Franche-Comté. Donc aujourd'hui, cette pépinière Préau, c'est un outil essentiel au cœur d'un dispositif plus large qui est celui du pôle PEPSO, et qui fédère des éditeurs, des professionnels, des bibliothèques. Et mon rôle de documentaliste dans ce pôle, c'est d'apporter des réflexes métiers là où les frontières sont un peu plus poreuses entre les activités d'édition-diffusion et de documentation. En aidant les équipes éditoriales, par exemple, à adopter et à déclarer dans Mirabel une politique de publication qui est claire, qui va se répandre dans d'autres systèmes d'information, comme Sherpa Romeo, le DOAJ, etc., même dans HAL. J'aide à accroître la visibilité des contenus éditoriaux. J'apporte un temps de travail en accompagnement aux transitions numériques, surtout au sein des presses. Et bon, globalement, notre action commune a une portée politique, puisque ça sert les projets d'établissement et leur feuille de route science ouverte. Et je suis moi-même impliquée dans le comité de pilotage Sciences Ouvertes. Et cette complémentarité de la documentation et de l'édition, ça se retrouve à l'échelle nationale. Comme on l'a dit au départ, je co-anime le réseau Mirabel. Ce réseau Mirabel, il était peu connu des métiers de l'édition fut un temps. Et quand je suis entrée dans le copilotage en 2016, c'était vraiment connu comme un réseau de bibliothécaires, quelque chose qu'on entend encore aujourd'hui, mais moins. Et cependant, dès 2017, nous organisions une table ronde sur le référencement dans le cadre des Journées Médicis, une co-organisation d'un réseau professionnel à la base de bibliothécaires, Mirabel et des éditeurs. Voilà, et Repair.
Oui, d'ailleurs, dans Repair, c'est un petit peu la même chose, puisqu'il y a des groupes de travail. Enfin, je prends l'exemple des groupes de travail, mais il y a d'autres exemples. Hein, mais on retrouve cette complémentarité, puisque souvent, les GT de Repair sont pilotés par... une personne de l'édition, un personnel de l'édition et un personnel de l'infodoc. Enfin, voilà, c'est devenu nécessaire quand on crée, je pense au GT Accueil des revues par exemple, où on crée des fiches d'évaluation éditoriale pour faire du suivi de revues, c'est-à-dire comment est-ce qu'on évalue où en est la revue dans sa montée en qualité et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Ben là, il y a besoin bien sûr des deux métiers.
Donc, on en arrive à la notion d'Édouard Glissant que tu as invoqué au départ.
Mais tout à fait, Armelle. Avec Édouard Glissant, la notion de chaos monde serait le constat actuel des mutations profondes en édition et en documentation qui provoquent des bouleversements pratiques, techniques, juridiques et institutionnels.
Tu ne réagis pas. Bah, en fait, on va ramener ça du point de vue de nos métiers. Comment tu peux ramener cette éducation?
J'arrête. Au contact d'autres langues, d'autres cultures professionnelles, notre chaos monde se créolise donc. Des services se recomposent, s'assemblent, se rapprochent autour de l'édition en intégrant différents corps de métier, soit par un transfert de compétences directes, soit par une collaboration qui est devenue très étroite. Et donc la créolisation permet de répondre aux enjeux actuels de l'édition numérique en accès ouvert. Mais la créolisation seule ne résout rien, car elle peut engendrer le meilleur comme le pire, c'est-à-dire des tensions, un sentiment de concurrence ou encore des incompréhensions.
Oui, quand on a préparé la communication, on se disait, c'est vrai que la science ouverte, ça bouleverse, mais c'est aussi un principe fédérateur qui permet de disposer d'une nouvelle grille de lecture et d'action qui continue aussi qui contribue à donner du sens à nos pratiques nouvelles. Et là, elle participe de la créolisation de nos métiers en créant des ponts qui n'existaient peut-être pas suffisamment auparavant. Voilà.
Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour une créalisation réussie? Il devient utile de convoquer le chaosmos de Félix Gattari. L'idée, c'est de pouvoir penser d'une manière non conflictuelle la coexistence de groupes professionnels, sans que cette coexistence ne provoque de nouveaux renfermements identitaires. C'était le cas avant, quand il y avait des silos métiers comme ça, qui ne communiquaient que très peu. C'est un peu schématique ce que je dis, mais c'est pour appuyer. Et il convient donc de faire la place psychiquement, donc c'est-à-dire intérieurement, mais aussi de faire la place en conscience et surtout en connaissance sur métier. Et donc, il s'agit en partie de faire preuve de curiosité.
Et Basile donc va nous montrer comment, nous expliquer comment mettre en œuvre cette osmose professionnelle.
Bien, nous avons développé dans nos services une poétique de la relation. Il s'agit de sortir d'une identité fixe, c'est-à-dire l'éditrice la documentaliste, le ou la documentaliste, pour s'approprier ce que Glissant a appelé une identité-relation, c'est-à-dire le bibliothécaire ou la bibliothécaire avec l'éditeur ou l'éditrice, le ou la documentaliste avec l'éditeur ou l'éditrice, qui me semble beaucoup plus adapté à nos situations. Et cette poétique de la relation consisterait alors à se créer une identité-relation aux autres corps du métier, grâce à des compétences relationnelles et un dialogue autour de l'édition ouverte.
Je crois qu'on peut passer tout de suite à la notion d'archipel.
Oui, parce que parmi les diverses structurations en cours dans le domaine de l'accompagnement aux revues, notamment les pépinières, pôles, services de soutien à la recherche, partenariat entre presse et pépinières, etc., la complémentarité des métiers représente pour nous la volonté à la fois de pouvoir répondre aux enjeux du numérique et de la science ouverte, mais aussi de pouvoir constituer des équipes plus ou moins formelles et organisées, auxquelles les mots de pôle ou pool, au sens de mise en commun, regroupement, correspondent bien. Et donc, si elle est réussie, la mise en œuvre de cette complémentarité métier, pardon, sous forme d'équipe de travail en archipel, permettrait de réaliser une édition complète grâce à des compétences diversifiées, tout en conservant les savoir-faire qui sont propres au métier, voire en les valorisant par leurs différences de culture. Et en mettant en œuvre une poétique de la relation, il est possible de continuer à élargir notre archipel éditorial, donc ça c'est pour ouvrir, hein, et tout en évitant l'isolement des agents et des services, et de fédérer autour de l'édition. On peut aller au-delà d'InfoDoc et l'édition en fédérant des chargés de communication, des chargés de valorisation et des médiateurs scientifiques, des chargés de données de la recherche et des archivistes, des professionnels de l'IST. Et au sein de Repair, on l'a vu par exemple avec le SPOC Pierrot, des ingénieurs pédagogiques ou Open Edition, comme le disait Laurent tout à l'heure. Soit au fond, l'ensemble de la BABEF, sans oublier les informaticiens, de manière à pouvoir répondre aux enjeux de l'édition scientifique. Bref, de construire des ponts devons continuer pour une édition en archipel.